France Inter.
Aujourd'hui, gorille, le pouvoir des femelles, raconté par...
Shelley Massey, primatologue, spécialiste des gorilles au Muséum National d'Histoire Naturelle.
France Inter, La Terre au Carré, Mathieu Vidard.
Au XIXe siècle, les forêts d'Afrique équatoriale étaient encore des territoires de légende. Des voyageurs revenaient avec des récits troublants, des créatures immenses, hurlantes, semblables à des hommes velus, entraient les confins du Gabon et du Congo. L'imaginaire occidental y voyait des monstres mi-hommes, mi-bêtes, nés du mystère et de l'inconnu. En 1847, à Boston, un missionnaire et médecin américain, Thomas Savage, reçoit un crâne étrange provenant des bords du fleuve Congo. Ni humain, ni chimpanzé, il appartient à une espèce encore non décrite. Savage publie la première description anatomique du gorille qu'il nomma Troglodyte gorilla. Pour la première fois, la science donnait donc un nom à ce géant silencieux de la forêt, mais à ce stade, ce gorille n'était qu'un squelette sans visage. C'est une dizaine d'années plus tard que la créature allait prendre chair sous les yeux d'un homme, Paul Belloni du Chaillut, né à La Réunion en 1831. À la fois chasseur, naturaliste et conteur, Chaillut se rend dans les forêts profondes de l'actuel Gabon en 1856. Il observe la faune, collecte des spécimens et traque un animal donc que personne n'avait encore vu vivant. Et puis la rencontre survient enfin, un être noir, dressé, massif, tambourinant sur sa poitrine et poussant des rugissements, un gorille mâle adulte. Il en tue plusieurs, collecte des peaux, des squelettes et ramène sa moisson en Europe. En 1861, son ouvrage « Exploration et aventure en Afrique équatoriale » est publié à Londres. Le gorille devient une vedette. Exposé dans les musées, discuté dans les salons, il fascinait autant qu'il effrayait. Sa proximité troublante avec l'homme alimentait les débats sur l'évolution, alors que Charles Darwin venait de publier « L'origine des espèces ». L'idée que nous descendions d'ancêtres communs avec les singes, autrefois risibles, devenait donc plausible et troublante. Savage avait évincé la science, Du Chaillut lui avait donné chair et son nom reste à jamais lié à l'entrée du gorille dans l'histoire naturelle et dans l'imaginaire de l'Occident, celle d'un monde où l'humain ne règne plus seul au sommet. Bonjour Shelley Massey.
Bonjour.
Vous publiez Queen Kong, la loi de la jungle au féminin chez Albin Michel. Vous êtes en France la seule spécialiste des gorilles et pourtant votre histoire avec les primates a commencé assez mal apparemment lorsque vous étiez enfant à Addis Abeba. Vous avez passé du temps là-bas avec vos parents?
Oui, j'étais là-bas avec toute ma famille quand j'avais 5 ans parce que mon père a été embauché à l'université d'Addis Abeba.
Vous arriviez quoi, de Rome hein?
De Rome, ouais. Oui. On est arrivé de Rome avec toute la famille et après on est parti aussi au Kenya pour un mois pour faire le safari. Et ouais. Moi, je connaissais toutes les espèces des grands mammifères. J'avais la passion des grands mammifères. Mais si vous me posez la question, quelle espèce de singe il y avait, je ne sais pas vous dire parce que je n'aimais pas du tout les
mais
primates.
Pourquoi vous ne les aimiez pas, les primates hein?
Parce que j'adorais les animaux, donc j'ai regardais toujours les documentaires et je voyais notamment les chimpanzés qui se faisaient la guerre. Donc, je voyais un côté négatif, trop similaire à l'homme. Pour moi, c'était trop similaire à l'homme, donc j'étais intéressée par les autres mammifères.
Ouais. Alors, à quoi elle remonte votre passion pour les singes et pour les gorilles, hein, exactement?
Oui, donc, un de ces jours, j'étais en train de regarder ces documentaires, j'avais 8 ans. Et je suis tombée sur un documentaire avec les gorilles, où il y avait deux gorilles qui regardaient un caméléon. Et donc, à un certain moment, un des deux a commencé à caresser les caméléons sur le profil de la tête jusqu'à la queue. Et là, je suis tombée amoureuse avec les gorilles parce que me suis dit, ce sont des animaux tellement sensibles que je voudrais rentrer dans leur tête pour le mieux comprendre. Et donc, c'est bizarre parce que... Encore une fois, le rapprochement à l'homme, cette fois, c'était positif.
Oui, et donc il a fallu attendre combien de temps pour que vraiment vous puissiez vous rendre à la fois sur le terrain et rencontrer pour la première fois un gorille?
J'ai attendu d'avoir 23 ans pour pouvoir partir en Afrique. En fait, comme je dis dans les livres, j'ai toujours considéré ce rêve d'étudier les gorilles, comme on dit en italien, le rêve dans les tiroirs, ce rêve qu'on ne pense jamais de réaliser dans leur vie, ouais. dans notre vie. Et finalement, j'ai eu la chance vraiment de ne pas seulement de le réaliser, mais aussi de, ouais. de faire de ma passion mon travail.
Et donc de mener des recherches hein, sur cet animal, sur ce cousin, on peut le dire comme ça ?
Oui.
On a beaucoup de proximité génétique avec le gorille,
oui.
mais moins qu'avec le chimpanzé quand
moins,
même.
Hein, parce qu'avec les chimpanzés, on a 98,9% de l'ADN, donc génétiquement proche
en commun,
et
ouais.
en commun. Et pour le gorille, c'est 97%.
Ouais, mais c'est quand même un cousin. Donc, ouais. Y vivent-vous les gorilles d'ailleurs en Afrique ? Il y a assez peu de territoire. Hein.
Ils vivent dans les forêts des plaines et des forêts des montagnes, dans mmh. différents pays comme le Congo, la République centrafricaine, ouais. le Gabon.
Et alors vous, ce sont les gorilles des plaines de l'Ouest africain qui vous ont intéressé en particulier, pas ceux des montagnes, pourquoi ?
Oui, bon, en réalité j'ai eu la chance de pouvoir aller étudier les gorilles de l'Ouest, les gorilles des plaines de l'Ouest. Mais à l'époque, quand je suis partie, on ne connaissait que les gorilles des montagnes, mmh. parce que les gorilles de l'Ouest étaient très difficiles à approcher. Par contre, les gorilles des montagnes étaient étudiés depuis longtemps par Diane Fossey, la pionnière qui a étudié et a rendu célèbre les gorilles des montagnes à l'international. Et donc, aussi, sur l'Internet, ce qu'on trouvait, les photos, étaient oui. que des gorilles de montagne, des gorilles sauvages, étaient que des oui. gorilles de montagne.
Il faut dire que c'est les plus costauds aussi, non ?
Ils sont plus gros, plus costauds, plus poilus. Et donc, j'adorais les gorilles de montagne.
Oui.
Les peu de photos qu'il y avait sur les gorilles de l'Ouest, c'était que des gorilles des eaux, qui pour oui. moi sont très différents des gorilles sauvages. Si oui. vous me donnez une photo, je peux vous dire tout de suite si c'est des eaux ou pas.
Oui.
Et donc, au début, j'ai eu le seul bémol que j'avais pour partir en Afrique, c'était que c'était l'autre espèce. Ce n'était pas les gorilles des montagnes, mais au final, c'était une grande chance.
Donc, ce sont des espèces distinctes ?
Oui.
Ce n'est pas les mêmes espèces ?
Il y a deux espèces, les gorilles de l'Ouest et les ouais. gorilles de l'Est, dont font partie les gorilles des montagnes.
Mmh.
Les gorilles de l'Est et les gorilles des montagnes sont très, très bien étudiés depuis 40-50 ans.
Ouais.
Les gorilles de l'Ouest, à l'époque, quand je suis partie, on ne connaissait presque rien sur leur comportement au milieu naturel.
Et alors, pourquoi les femelles gorilles vous intéressent plus que les mâles chez Limassi ?
Aujourd'hui, parce ouais. que quand je suis partie, j'ai adoré le doigt argenté. J'étais totalement fascinée par ce grand mâle de presque 200 kilos pour les gorilles de montagne, presque ouais. 200 kilos pour les gorilles de l'Ouest, bien coloré avec le dos argenté. C'est magnifique.
C'est quoi ? C'est un peu le mâle alpha du groupe, le doigt argenté ? C'est celui qui domine ?
Tous les mâles adultes sont doigts argentés.
Ouais.
Et chez l'espèce de l'Ouest, il n'y a qu'un mâle adulte, donc qu'un seul doigt argenté. Donc c'est pour ça que je ne dis pas le mâle dominant, parce
ouais,
que c'est
d'accord.
le seul.
Okay.
Par contre, chez les gorilles de montagne, il y a plusieurs doigts argentés qui peuvent être dans le même groupe familial.
Ouais.
Et donc au début, j'étais totalement fascinée par les doigts argentés, mais au fur et à mesure de mes années passées là-bas et les étudier, j'étais capturée de plus en plus par les femelles.
Ouais, alors même que les primatologues ont longtemps considéré que les femelles étaient soumises au roi Kong, on va en parler avec vous dans un instant. On va écouter l'extrait d'un documentaire qui s'appelle « Sur la terre des gorilles ». C'était diffusé en 2023 sur France 5, réalisé par Vianney Djangay.
C'est quelle femelle ?
Toulie.
Elle n'a pas peur ?
C'est la femelle en provenance de l'ancienne famille de l'ancien Tavitu.
Cette femelle se démarque par rapport aux autres. On voit qu'elle a été complètement habituée, parce qu'elle nous ignore alors qu'on est à moins de 7 mètres à peine.
'S'habituer aux gorilles, quand on est justement un scientifique de terrain comme vous chez Limassi, ça prend du temps, c'est ce que vous dites aussi. Et il y a une grosse différence entre, là aussi, les gorilles de l'Ouest et les gorilles de montagne sur l'habituation, c'est le terme ouais. qui est employé. Combien d'années il faut pour se faire accepter par un groupe de gorilles ?
Alors, tout d'abord, ce n'est pas s'habituer nous aux gorilles, mais c'est eux qui s'habituent à nous.
Oui.
Et pour les gorilles de l'Ouest, ça prend 8 ans, or que pour les gorilles de montagne, ça prend que 2 ans.
Et comment on explique cette différence ?
C'est surtout lié au fait que les gorilles de montagne vivent dans la montagne, donc oui. la forêt des montagnes, il y a la pente, et donc nous, on peut les approcher de façon un peu plus douce, parce qu'on peut les détecter à distance.
Oui.
Donc on peut les contacter, on dit, oui. visuellement ou par les vocalisations, même à une centaine de mètres. Donc, ouais. on ne les brusque pas.
Comment vous faites d'ailleurs pour vous signaler alors, auprès d'un gorille ?
on fait un claquement pour se faire voir et pour attirer leur attention de façon qu'au fur et à mesure des jours, des mois, des années, ils vont associer ce bruit à nous et ils vont comprendre qu'on n'est pas là pour faire mal.
Ce claquement, il est issu du langage des gorilles ou c'est vraiment purement humain?
Non, c'est purement humain. Ouais. Mais parfois, on est étonné dans la forêt parce qu'il y a un oiseau qui fait le même.
C'est vrai.
Donc on dit, mais c'est qui?
Il y a un humain perché dans un arbre.
C'est ça.
Et alors les femelles, vous dites des choses incroyables sur les femelles. Ce sont des vraies guerrières qui se battent pour leurs droits, en fait, dans les groupes de gorilles.
Oui, et je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment après 20 ans d'observation, 25 ans d'observation que j'ai fait, que j'arrive à dire ça. Parce qu'au début, justement, on pensait que les doigts argentés étaient les chefs qui n'étaient pas défiés par personne. Ouais. Par contre, là, on se rend compte que les femelles peuvent prendre des décisions toutes seules et même affronter un doigt argenté dans certains cas particuliers.
On en parlera, mais par exemple pour l'accès à une meilleure nourriture, c'est ce que vous dites, pour avoir voix au chapitre sur les décisions concernant la communauté et choisir elles-mêmes leur partenaire sexuel.
Oui, parce qu'effectivement, elle peut changer de groupe. Et on pensait que peut-être c'était plutôt un choix du mâle doigt argenté qui est très, vous dites en français, baraqué, il est très costaud.
Ouais.
Mais en fait, c'est les femelles qui peuvent choisir leur groupe. Ce que mes observations montrent, c'est que vraiment, elle peut tourner de groupe en groupe jusqu'à qu'elle trouve le groupe qu'elle veut.
Elle vote lors des déplacements du groupe avec un vote vocal, là aussi. Hein.
Oui, avec un grognement comme... Et elle peut dire on est prêt à partir et sans ou avec l'accord du doigt argenté, elle peut partir tous ensemble.
Mais
donc
le vote, c'est
parce que quand il y a un nombre suffisant d'individus qui s'est exprimé avec cette vocalisation, alors les gorilles vont partir, même si le doigt argenté ne s'est pas exprimé. Et donc c'est comme, on l'appelle ça vraiment en langage scientifique, un quorum, ça veut dire qu'il y a un nombre exact, un nombre suffisant d'individus qui sont d'accord à partir.
Pour partir, exactement. Il y a donc une loi de la jungle au féminin, c'est l'objet donc de cet ouvrage, Queen Kong, c'est un très bon titre d'ailleurs chez Limassi. On vous retrouve dans un instant, on va parler de vos travaux sur le régime alimentaire, en particulier des primates, la question aussi de la mort, et puis vous pourrez répondre aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y a parmi les animaux ceux qui nous font peur, en particulier les primates, ceux qui nous ressemblent. Le gorille nous fait peur parce qu'il est provocateur comme un être humain. Quand nous sommes au campement, nous nous protégeons d'eux en utilisant des plantes répulsives que nous plaçons tout autour de l'endroit où nous nous trouvons. Ils peuvent rugir ou crier, mais ils n'approcheront jamais.
Extrait d'un documentaire d'Arte au Gabon, Gare aux gorilles, chez Limassi, vous qui êtes primatologue et qui publiez Queen Kong, la loi de la jungle au féminin, chez Albin Michel. Est-ce que vous utilisez vous aussi des plantes repoussante comme ça pour...
Pour le gorille?
Ouais.
Non, parce que je n'ai pas l'intérêt de le repousser. Mais...
Non, mais pour vous protéger aussi peut-être la nuit sur le campement, non?
Non, on se protège plutôt par les éléphants qui sont très dangereux là-bas. Et effectivement, je vais en forêt avec un tissu dans ma poche et je le garde toujours dans ma poche de façon qu'il puisse prendre l'odeur de moi-même. Et donc, quand on a des charges d'éléphants qui sont continues, parce que normalement, ils nous chargent et après, ils se fatiguent. Et donc, nous, on peut échapper. Mais parfois, ça se trouve qu'il nous suit pour plusieurs kilomètres. Dans ce cas-là, ce que j'ai vu, c'est qu'on peut laisser des choses. Les bayaks laissent les pisteurs.
Les pisteurs, c'est les chasseurs-cueilleurs.
Les chasseurs-cueilleurs de la République centrafricaine laissent leurs flip-flops, les tongs.
Ouais.
Et donc, l'éléphant s'arrête parce qu'il
il y a
l'odeur. Donc, j'avais pensé à ce mouchoir à laisser dans ce cas-là.
Donc, il y a des stratégies répulsives quand même
oui.
pour les gorilles. Racontez-nous votre premier contact avec un gorille sauvage. Ça s'est passé en République centrafricaine, vous le racontez dans cet ouvrage. Dans quelles conditions ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez éprouvé surtout?
Alors, j'avais très peu de chance de voir les gorilles parce que quand je suis arrivée, les gorilles n'étaient pas très habitués, on a dit, à l'homme. Donc, on pouvait seulement les entendre dans la végétation. Et par contre, quand on est parti, donc c'était une végétation très, très dense. On ne s'attendait pas du tout de les voir de près. Et par contre, on s'est trompé, on ne les a pas entendus parce que c'est ça le problème. Dans la forêt des plaines, la visibilité parfois est de mi-mètre. Et donc, on est arrivé trop près. Le dos argenté est sauté de la végétation et a hurlé, il nous a chargé, il a attrapé la jambe de Pister qui était en premier. Et donc nous on est resté sans bouger, mais moi j'étais totalement fascinée par cette vision parce que je n'aurais jamais pensé de pouvoir voir les gorilles la première fois que j'ai arrivé, et en plus le dos argenté, la première fois que j'ai arrivé dans la
forêt. C'est ça, et d'ailleurs votre collègue elle vous demande est-ce que vous voulez continuer ou pas, parce que la scène était tellement traumatisante qu'elle s'est dit elle va arrêter tout de suite.
Oui, parce que moi je ne réalisais pas à l'époque que c'était très grave qu'un gorille, que le dos argenté nous touchait, nous avait pris la jambe de Pisser. Et donc elle était très préoccupée que je faisais comme la volontaire précédente qui est partie tout de suite
grâce à elle d'ailleurs que vous avez pu avoir ce job à l'âge de 23 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il est devenu le pisteur lui alors?
Non, il est toujours.
Il s'en est bien sorti.
Oui, il s'est bien sorti. Il avait créé une griffure. Heureusement, c'était pas très grave. Ça peut être beaucoup plus grave s'il nous morde. Les canines sont énormes.
C'est ça, oui. Mais donc, ça peut être dangereux, vraiment. Un gorille, ça peut entraîner la mort d'un humain.
Il va pas nous mordre pour nous tuer. Comme les éléphants. Les éléphants vont nous charger pour essayer de nous tuer. Mais le problème, c'est que là-bas, on est au milieu de la jungle, loin du village où il n'y a qu'un dispensaire qui est très loin de l'hôpital qui est à la capitale et qui c'est difficile d'être soigné là-bas.
Les Bayaka sont ces chasseurs-cueilleurs qui savent repérer les traces des gorilles dans la forêt. Ils sont indispensables justement pour accompagner les scientifiques comme vous. Et vous dites qu'ils ont une ouïe et un odorat quasi bionique.
Oui, c'est sûr.
Tout en marchant pieds nus dans la forêt d'ailleurs, au milieu des serpents.
Oui, ils marchent beaucoup mieux à pieds nus. Parfois, ils utilisent aussi les tongs, mais ils préfèrent, s'il y a un moment de danger, ils préfèrent à pieds nus. Et sans eux, on n'aurait jamais pu habituer les gorilles parce qu'ils sont les seuls capables de retrouver les traces de la même famille de gorilles chaque jour.
Oui, mais par contre, ils ont peur des éléphants, c'est ce que vous dites. Hein.
Oui, mais ils ont raison.
Ils ont raison parce qu'il faut vraiment se méfier. Les femelles gorilles, est-ce qu'elles, on peut dire finalement qu'elles disposent d'un pouvoir subtil sur les mâles?
Ah oui, c'est ça qui m'a impressionné parce que quand on regarde les gorilles, on pense, c'est facile de dire, bon, c'est le dos argenté qui domine, qui domine. Mais par contre, si on va regarder dans les détails, les femelles essayent quand même de trouver leur place dans le pouvoir de façon subtile.
Rusées. Elles sont très rusées, c'est ce que vous dites. Hein.
Oui. Elles se mettent à côté, elles font comme pour essayer de prendre la nourriture, par exemple. J'ai décrit qu'elle fait semblant qu'elle est juste à côté pour se reposer et après, quand le dos argenté ne regarde pas, il lui vole un petit morceau de nourriture.
Ou elles font croire qu'elles sont tomber sur des fruits succulents et abondants, c'est ce que vous racontez aussi.
Oui.
Et là, c'est un leurre, en fait, c'est ça?
Mais ça, c'est l'opposé. C'est les femelles qui se sont éloignées du dos argenté pour aller manger quelque chose de très précieux, et les dos argentés qui fait semblant qu'il est en train de manger quelque chose.
Ah, c'est le mâle qui fait ça?
Oui. Qui des choses très, très d'autre qualité et qui essaie de les attirer, mais elles ne répondent pas. C'est ça, la chose intéressante, c'est qu'il les appelle pour une heure et elles ne rentrent pas,
elles sont pas dupes
à côté de lui.
Elles ne rentrent pas dans leur petit manège. La guerre des sexes qui se traduit souvent par la guerre des fruits, justement.
Ouais.
Les gorilles peuvent être très agressifs entre eux au moment de la cueillette des fruits. On va écouter aussi cet extrait d'un reportage d'Africa News en 2024. Ça se passe au Rwanda.
Si vous entendez un dos argenté faire le A, comme je viens de faire, vous devez faire attention. Il peut tousser quand vous êtes à côté de lui, soit il veut qu'on s'approche de lui, soit il veut qu'on recule. Un peu plus loin dans la forêt, ils aperçoivent enfin les gorilles. Il est temps de faire une pause, de socialiser. Ils ont une horloge biologique. Tous les gorilles font une pause pour digérer ce qu'ils ont mangé le matin et socialiser. C'est pourquoi vous les voyez tous s'arrêter de manger.
Il y a donc la pause digestion chez Limacier.
Oui, ouais. Et c'est exactement là qu'on a, on a pris l'occasion pour regarder après qui décidait de repartir après cette pause, de, ouais. qui c'est autour des midi, midi 30, 13 heures.
Alors vous vous intéressez justement au régime alimentaire des gorilles, c'est une de vos spécialités dans votre spécialité qui est celle d'étudier les gorilles au sein des primates. Et vous racontez, hein, pour ça, il faut collecter les fruits et les plantes que cette espèce consomme donc, et en faire l'analyse nutritionnelle.
Oui, c'est exactement. Ça. Après, bien évidemment, on les sèche. Ouais. En forêt, et je vous assure, ce n'est pas simple de sécher dans la forêt tropicale, c'est très humide, ouais. où il y a 100% d'humidité, mais parfois on y arrive, parfois il y a la moisissure, et après on les garde de façon sec et on les amène en Europe pour les analyser, ouais. pour exactement regarder les protéines, les contenus en protéines, lipides, carbohydrés, minéraux.
Et qu'est-ce qui raconte les repas des gorilles alors? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce que ça dit d'eux?
Qu'ils choisissent. Et d'elle, bien évidemment. Et il choisit surtout les sucres, bien évidemment. Quand il y a les fruits, il préfère les fruits. Mais sans, s'il n'y a pas les fruits, il arrive à se débrouiller de toute façon, okay. d'une autre manière ou l'autre, parce que le gorille arrive à fermenter les fibres. Ça veut dire qu'il peut extraire des calories à partir de plantes herbacées, de feuilles, donc même sans avoir vraiment des carbohydrates ou des sucres, par ouais. exemple. Et donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils ont une très bonne qualité de nourriture toute l'année, même quand les fruits ne sont pas disponibles.
Ouais. Et ils aiment bien les fruits fermentés, justement, c'est ça?
Oui,
ils sont un peu
vrai.
Alcooliques sur les bords, non?
Oui, 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 parce que j'étais étonnée de voir que parfois, ils mangeaient des fruits qui sentaient vraiment l'alcool.
Ouais.
Et donc, j'ai eu l'occasion de collaborer avec un chercheur américain qui étudiait justement les racines de l'alcoolisme chez l'homme.
Ben oui, c'est ça.
Et qui était intéressé de savoir si nos cousins vivants les plus proches mangeaient, étaient exposés à l'alcool quand ils mangeaient des fruits. Ouais. Et finalement, on les a testés. Il y a plein d'éthanol dans les fruits des
gorilles. C'est ça, ouais. Il y a des choses qui distinguent les mâles des femelles, d'ailleurs, dans ce rapport à la nourriture ou pas?
Bah, c'est sûr que le dos argenté, le mâle, il est dominant sur la nourriture. Ça veut dire ce qu'on appelle l'accès prioritaire à la nourriture. Ouais. S'il arrive un arbre, par exemple, je fais dans les livres l'exemple d'un fruit qui s'appelle voussa, qui est grand comme un ballon de basket. Donc imaginez-vous qu'un arbre ne peut pas produire beaucoup de ce fruit. Il non. y a un ou deux qui sont mûrs en même temps. Donc il arrive, il prend son ballon de basket, il se met là pour une heure à manger. Ouais. Et donc les autres doivent chercher des alternatives, mais sans s'éloigner trop parce que les gorilles ont besoin d'être protégés par les dos argentés qui effectivement a un rôle de protecteur de la famille ouais. à cause de l'infanticide parce qu'un autre mâle peut attaquer un groupe familial pour ouais. essayer de tuer les petits-enfants.
On va parler de la question de la mort d'ailleurs dans un instant et puis vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr chez Limacy. On parle gorille avec vous.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Je me suis progressivement approché des femelles et des jeunes, mais le mâle dominant à dos argenté reste à l'écart. Il garde ses distances, mais observe tout très minutieusement. Je m'approche d'eux à 10 ou 20 mètres, sans qu'ils paraissent avoir peur. Au fil des jours, j'espère m'en approcher assez pour établir un véritable contact. Je les crois fort perturbés par mon espèce. Je les ai amadoués en les imitant. Du fait de ce rapprochement, je glane une masse d'observations et du jamais vu.
Extrait du film Gorille dans la brume en 1989, autour de la primatologue Diane Fossey, qui est un peu votre héroïne, Chalie Massy, j'imagine.
Oui, bien évidemment, une fois que je suis tombée amoureuse des gorilles, j'ai lu les livres tout de suite.
En quelle année, à quel moment elle est décédée, Diane Fossey?
C'était les années 89, 80.
Vous ne l'avez jamais rencontrée, donc,
non,
l'occurrence.
J'étais trop petite.
Vous avez commencé bien après. Ouais. On répondra tout à l'heure à un petit débat viral en ce moment sur les réseaux sociaux. Autour de cette question, est-ce qu'un gorille à lui seul pourrait vaincre 100 hommes à main nue? C'est un truc qui est monté dans les réseaux. On répondra tout à l'heure, parce qu'il y a une question de la part d'auditeurs et d'auditrices. Revenons à vos travaux d'abord, avant ça, chez Limacy, autour de ce livre Queen Kong. Est-ce qu'on peut parler d'un langage chez les gorilles? Parce que c'est toute la question de la communication chez les animaux. Est-ce qu'on peut dire que, par rapport à ce que vous avez observé, il y a un langage, vraiment, ou pas?
Un scientifique ne pourra jamais vous répondre oui, sûrement, mais c'est sûr qu'on est en train de mener plusieurs études pour essayer de voir si effectivement les gorilles ont une communication plus complexe et oui. une sorte de syntaxe, donc qu'ils sont capables de combiner, par exemple, certaines vocalisations pour donner un significat différent.
Oui.
Aujourd'hui, on ne peut pas encore le dire, mais on a des bases pour dire qu'ils ont quand même une communication très complexe.
Ok. On a essayé de leur enseigner le langage des signes, je crois, aux gorilles. C'est ça?
Oui, il y avait Coco qui a été la gorille en Amérique à laquelle a été enseignée et ça a été très critiqué, mais je trouve que quand même c'était une expérience très intéressante. Elle a montré quand même de pouvoir comprendre beaucoup des signes mm-hmm. et aussi de faire de nouveaux signes, ce qui est une caractéristique du langage humain. Oui. Par exemple, elle connaissait le mot collier.
Le collier autour du cou.
Autour du cou et elle ne connaissait pas les bracelets. Donc, elle a dit, avec le langage des signes, le collier de poignet. Mmh. Et donc, ça montre qu'il y a une innovation.
Mais c'est
innovation.
En captivité, là, pour
en
le
captivité,
coup.
En captivité, oui.
Dans le domaine, enfin, dans la nature, ce n'est pas possible,
non,
avec un gorille sauvage.
On ne peut pas enseigner le langage des signes. On ne peut pas interagir avec ces gorilles, parce qu'on doit les laisser dans leur état naturel.
Vous avez assisté, chez Limassi, à une scène avec une petite gorille femelle de 2 ans qui est tombée d'un arbre. Mmh. Vous avez pensé qu'elle était morte. Comment a réagi sa mère, d'abord, quand elle a vu sa petite tombée?
Oui, c'était très tragique parce que moi et Ngombo, le pisteur qui était avec moi, on était en train de pleurer déjà parce qu'elle est tombée de 30 mètres et dès qu'elle est arrivée à terre, sa voix a été coupée. Donc, on a pensé qu'elle était morte par le choc. Sa mère est descendue tout de suite. Elle a essayé de la mettre sous le dos comme les mères font d'habitude à cet âge-là, mais il n'avait pas de réaction. Elle a essayé deux fois. Et après, elle a pris dans les bras, elle s'est mise à reposer à côté de sa pire ennemie, l'autre femelle du groupe, qui normalement ne sont jamais si collées l'une de l'autre. Mais dans une situation de danger ou de difficulté, elle s'est mise à côté de l'autre, comme dans une espèce d'empathie. Et le petit est resté à côté d'elle pour une heure. On était encore en train de pleurer jusqu'à ce que j'ai vu avec les jumelles, parce qu'on a mis un peu de distance pour la laisser tranquille, qu'il avait bougé son bras. Donc je me suis dit, bon, peut-être il est paralysé, elle ne peut pas bouger. Mais finalement, après une autre heure, donc cette journée-là, ils se sont reposés 2 heures.
Ouais.
Bizarrement, donc je pense qu'il attendait que le petit se réveille. J'ai vu qu'effectivement le petit, une fois que tout le groupe est parti, elle est partie en boitant, mais elle était vivante. Et donc c'était incroyable pour moi de regarder ça. J'ai pensé que la mère n'a pas lâché la prise. Elle savait pas si elle était vivante ou pas. Sûrement elle était inconsciente.
Et des chutes comme ça, il y en a souvent ou pas?
Pas souvent, mais parfois ça peut passer, le petit qui tombe.
Ouais.
Mais c'est très rare quand même.
Est-ce que de nombreux gorilles reconnaissent la mort d'un congénère? Est-ce qu'ils ont conscience de la mort?
Oui, justement, tout ça m'a fait un peu interroger sur l'effet si le gorille peut reconnaître la mort. Aussi parce que j'avais observé un gorille qui avait trouvé un potamochère, un grand sanglier de la forêt, mort, et avait eu une réaction totalement différente de quand il rencontre un potamochère vivant.
Ouais.
Et donc tout ça, ça m'a fait penser qu'il reconnaît la mort. Et en plus, ils sont empathiques l'un avec l'autre, parce que quand il y a quelqu'un qui est mort, ils se regroupent l'un après de l'autre, à côté vraiment de l'autre, même des femelles qui ne s'aiment pas. Sont toujours à côté du corps.
Mais vous dites qu'à chaque fois qu'un petit meurt au sein d'un groupe, les mères quittent le groupe.
Ouais,
pourquoi est-ce qu'elles partent?
Ça, je pense que c'est plutôt instinctuel. C'est parce qu'elles sentent que l'édouard argenté n'a pas pu protéger son petit. Parce qu'à cause de l'infanticide, effectivement, comme je vous ai dit, il y a des mâles qui peuvent attaquer le groupe familial et tuer un petit enfant. Et donc, une mère qui perd son petit, même s'il tombe de l'arbre, et ce n'est pas la faute du doigt argenté, quand même, elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ce groupe. C'est comme si elle a un sentiment qui n'est pas bien protégé. Mmh. Et donc, normalement, on voit qu'après un mois, à la première occasion des rencontres avec un autre groupe, elle part, elle quitte le groupe.
Chez Limassi, on va répondre aux questions qui sont arrivées pour vous sur le site de la Terre au Carré. Allez, d'abord, la question d'Émilie sur ce débat qui a lieu sur les réseaux sociaux en ce moment autour de la question. Un gorille pourrait-il vaincre 100 hommes à main nue ? Au-delà, dit Émilie, du côté stupide de cette question, que pensez-vous quand même de l'image ? Alors, que pensez-vous de l'image que ça renvoie de notre cousin ? Puis après, vous nous donnerez la réponse quand même à la question.
Alors, effectivement, c'est une question qui m'est posée beaucoup en ce moment. Et ouais. Je trouve que la question... l'image, c'est que on a l'imaginaire d'un doigt argenté comme un King Kong. Effectivement, si on regarde ces vidéos, le doigt argenté est beaucoup plus gros que les centaines d'hommes qui sont dans la vidéo. C'est vrai qu'un doigt argenté, c'est 2 mètres d'hauteur, mais il est à 4 pattes, donc il ne sera pas au sommet des 100 hommes. Donc déjà, l'image qui est projetée, ce n'est pas réel. Et de plus, un gorille n'aura jamais l'envie de se battre avec 100 hommes. Il va s'enfuir.
Il aura peur, probablement.
Il aura peur, il va s'enfuir. Ouais. Effectivement, c'est ce que... Je réponds ça parce qu'il y a eu des observations au Gabon d'un groupe de chimpanzés qui ont attaqué un groupe de gorilles.
Ah oui.
Et la première fois, si on regarde les vidéos sur cette publication scientifique, le doigt argenté a essayé de se battre. Mais la supériorité numérique des chimpanzés, qui étaient 8-9 individus, a fait qu'après, il est parti en courant. Ouais. La deuxième vidéo, il part en courant dès qu'il les voit.
Donc on peut imaginer que la confrontation n'aurait pas lieu, en fait.
Non, hein. Ouais. Je pense que...
Bernard dit, est-ce que vos années d'observation vous ont permis de mieux comprendre quelles sont les pensées des gorilles ? À quoi pensent les gorilles ?
Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Et c'est effectivement ce que j'aurais voulu comprendre. Je pense que ça dépend du moment. Parfois, ils pensent, on voit clairement qu'ils pensent à ce qu'ils doivent manger prochainement. Ouais. Donc, ils cherchent. Parfois, ils entendent des bruits et donc ils peuvent penser qu'il y a quelqu'un qui le suit. Ouais. Mais ils n'ont pas trop de temps de penser comme nous. Parce qu'ils doivent chercher la nourriture, c'est le temps pour se reposer. Donc, c'est ça.
Ça prend du temps, ça. Hein.
Ça prend du temps. Ouais. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de temps pour être philosophe.
Marie dit, on dit que les primates partagent les capacités cognitives avec les humains. Comment est-ce qu'on évalue ces capacités, en fait ?
Ça, c'est une question un peu compliquée. Ça veut dire que les capacités cognitives peuvent être de différents types. Ça peut être social, ça peut être la résolution d'un problème, l'utilisation d'outils. Donc, on peut effectivement les tester, surtout dans le milieu fermé, en zoo, avec des ouais. expériences ciblées pour certains comportements. L'empathie, par exemple. Donc, c'est un champ très, très large, les capacités cognitives.
Ouais. Et puis, dernière question, Jacques demande, vous dites que les gorilles peuvent être agressifs, mais il me semble avoir lu qu'ils étaient assez peu violents entre eux, si ce n'est pour défendre leur famille ou leur nourriture. D'ailleurs, doit-on croire à cette image du gorille bagarreur ou défenseur ? C'est pour compléter un peu ce qu'on se disait.
Oui, bon, ça, c'est vrai à moitié. Ça veut dire qu'effectivement, le doigt argenté défend leur famille. Oui. Et donc, tout le danger possible qui peut attaquer ou qui peut être perçu comme un danger sont attaqués par le doigt argenté. Donc, effectivement, dans les livres, je montre qu'on a fallu vraiment les suivre, les contacter plusieurs mois, plusieurs années pour qu'ils nous regardent comme un élément neutral de l'environnement. Oui. Donc, ils sont habitués. Donc, effectivement, ils se battent pas beaucoup entre eux comme les chimpanzés. Ils ne font pas la guerre, mais ils défendent leur famille. Donc, ils peuvent effectivement se battre.
Merci beaucoup, Shelly Massy. Votre ouvrage qui paraît chez Albin Michel s'appelle Queen Kong. Quand est-ce que vous retournez voir des gorilles, là ?
Là, je viens de voir, comme j'ai dit dans le livre, un petit bébé. Donc, je n'ai pas encore reprogrammé. Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous en parler aujourd'hui dans La Terre au Carré. À bientôt.
Merci beaucoup à vous tous.